journal. Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, minute de silence, drapeau en berne. La France rend hommage au gendarme Arnaud Beltrame qui a sauvé la vie d'une otage vendredi dernier dans l'Aude. Cérémonie aux Invalides à Paris, en présence d'Emmanuel Macron et de ses deux prédécesseurs. On verra comment l'Élysée l'a organisé. On écoutera le témoignage d'une rescapée de l'attentat et vous découvrirez le résultat d'une enquête sur le profil des djihadistes condamnés par la justice. Autre hommage, autre cérémonie ce soir en souvenir de Mireille Knoll, cette retraitée de 85 ans tuée à Paris dans ce qui semble être un crime antisémite. Un rassemblement est prévu ce soir. Le CRIF prévient déjà, il ne veut y voir ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. Des policiers chargés de traquer les entreprises qui fraudent le fisc, la loi est présentée ce matin au Conseil des ministres. Dans 20 minutes, votre invité Nicolas, il vient de plancher pendant 6 mois sur l'intelligence artificielle et il s'apprête à rendre ses conclusions.
C'est le mathématicien Cédric Villani, également député La République En Marche. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert, vous aurez la parole vers 8h35.
Dans ce journal également, le mouvement qui fait tache d'huile dans les facs. Le dernier jour de la présidentielle en Égypte. L'élection présidentielle tourne au plébiscite. Le foot, les Bleus se rassurent un peu hier soir en battant la Russie. Et puis au cinéma, un nouveau Spielberg comme on les aime.
France Inter.
À l'heure où débutera la cérémonie ce matin à Paris, elle sera chez elle, près de Carcassonne, trop tôt, trop compliqué de venir à Paris. Alors c'est devant sa télé qu'elle suivra l'hommage au gendarme Arnaud Beltrame. Elle qui, vendredi dernier, faisait ses courses à Trèbes quand le terroriste est entré dans le supermarché. Elle qui a sans doute frôlé la mort ce jour-là. Yann Gallic a rencontré cette rescapée encore sous le choc.
Les images de l'attaque reviennent en boucle comme une obsession depuis vendredi. Patricia est l'une des survivantes du Super U. Cette retraitée de 66 ans était venue acheter des chocolats pour ses petits-enfants. Et puis il y a eu les coups de feu, la fuite entre les rayons du supermarché pour échapper aux terroristes. Patricia raconte ces quelques minutes où elle s'est vue mourir.
Après le deuxième tir, j'ai poussé mon caddie, je me suis mise à courir, mais je l'ai entendu dire « Ne courez pas, couchez-vous, sinon je tire ». On se pose mille questions, on se dit « Là, c'est notre dernière heure ». Moi, je sais qu'en me sauvant comme ça, j'ai pensé au Bataclan, je me dis « On va revivre la même chose qu'au Bataclan ».
Aujourd'hui, Patricia sera devant sa télé pour suivre l'hommage national aux victimes, avec une pensée particulière pour le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.
C'est quelque chose qui est surhumain, ce qu'il a fait, parce qu'il a donné sa vie pour sauver d'autres vies. Je pense qu'il en était certainement conscient. On pense d'abord à nous avant de penser aux autres, mais lui, il n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous. Mais il n'est plus là, ça c'est dur. Il ne faut plus qu'on vive ça. Je le souhaite à personne. Parce qu'on est là aujourd'hui, on peut parler. Mais je n'aurais très bien pu ne pas être là et être à la place des victimes. Et j'ai du mal à réaliser ça. J'aurais pu être à la place de ces gens-là.
Encore sous le coup de la sidération, Patricia sait qu'il lui faudra du temps, dit-elle, pour surmonter ce traumatisme. À Carcassonne, Yann Gallic, France Inter.
Ce matin, 10h précise, tous les drapeaux seront mis en berne en France devant les gendarmeries, les commissariats, sur tous les bâtiments publics. Une minute de silence sera respectée au moment où débutera à Paris la cérémonie d'hommage national au lieutenant-colonel Beltrame. Sa dépouille partira du Panthéon, Mathilde Dehimy, pour prendre la direction de l'hôtel des Invalides, car l'Élysée a fait le choix d'une cérémonie inédite d'un hommage à un héros national.
Hommage inédit en deux temps, effectivement. Le cercueil du lieutenant-colonel Beltrame sera d'abord présenté dans 2 heures aux grands hommes de la nation devant le Panthéon, ce temple de la laïcité qui rend hommage à ceux qui ont œuvré pour la République française. Le cercueil restera ainsi exposé une quinzaine de minutes, le temps que ceux qui le souhaitent se recueillent un instant. Il prendra ensuite la direction des Invalides, 4 km de trajet le long du boulevard Saint-Michel, puis de la Seine. Le carillon de Notre-Dame de Paris résonnera alors. Le cortège funèbre arrivera ensuite dans l'autre lieu symbolique, les Invalides, là où l'on honore les militaires tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Seul Emmanuel Macron s'exprimera lors de cette cérémonie sobre, entouré des familles des victimes de cet attentat de Trèbes et de tous les représentants politiques. 200 gendarmes qui ont connu le lieutenant-colonel Beltrame dans ses différents postes seront également présents. Une partie d'entre eux d'ailleurs, de ces gendarmes, ont veillé toute la nuit le cercueil de leurs camarades à la caserne Tournon derrière l'Elysée. Et ils sont également très présents ce matin devant le Panthéon.
Mathilde Dehimy en direct du Panthéon à Paris avec Alexandra Bergel. Les familles des 3 autres victimes de l'attentat ont été conviées bien sûr à cette cérémonie. Jean Mazière, tué dans sa voiture. Hervé Sosna, le client du supermarché. Et Christian Medves qui y travaillait. Leurs obsèques auront lieu demain près de Carcassonne.
Voilà Marc pour la cérémonie d'hommage que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur France Inter à partir de 11h30. Quant à l'enquête Marc, elle se concentre désormais sur la compagne du terroriste.
18 ans, fiché S est désormais mise en examen. examen après 4 jours de garde à vue. La jeune femme est poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes. Elle a été incarcérée cette nuit. Quant à son ex-compagnon Radouane Lagdim, fiché S, mais dont la surveillance allait être allégée, le ministre de l'Intérieur, qui était notre invité il y a quelques instants, Gérard Collomb, rejette tout soupçon de rater des renseignements. Alors évidemment, chaque attentat, chaque terroriste est différent des autres. Il n'y a pas de portrait robot infaillible, mais sans doute, disons, des profils. C'est ce qu'a essayé de savoir un chercheur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, en examinant le parcours des 137 personnes condamnées en France dans des affaires de djihadisme depuis 2004, souvent des hommes, souvent issus de familles nombreuses ou des quartiers défavorisés. Le détail avec Jérôme Jadot.
Des hommes, dans plus de 9 cas sur 10, âgés en moyenne de 26 ans, avec un parcours social compliqué. Dans 90% des cas, ces djihadistes sont nés dans des familles nombreuses ou très nombreuses, familles fréquemment disloquées, note l'auteur. Près de la moitié sont issus de quartiers défavorisés et n'ont aucun diplôme. Plus d'un tiers sont au chômage et 2 sur 5 ont déjà été condamnés pour des faits de délinquance. Dans l'échantillon, 59% de ces djihadistes ont des parents originaires du Maghreb. Seuls un quart sont des convertis. Dans le processus de radicalisation, l'étude bat en brèche l'idée du loup solitaire. Elle dépeint des hommes souvent guidés par une dynamique de groupe, via une fratrie ou des amis qui se connaissent parfois depuis les bancs de l'école. Plus de la moitié sont également en couple. L'enquête montre aussi des djihadistes qui étaient plus instruits religieusement au début des années 2000 que ces dernières années. Elle souligne enfin un durcissement de la réponse judiciaire. La moyenne des peines de prison ferme est passée de 4 ans en 2014 à 10 ans en 2017.
8h07 après cet hommage national ce matin, c'est un autre rassemblement, Marc, qui se tient ce soir à Paris.
Une marche blanche en hommage à Mireille Knoll, cette octogénaire rescapée de la rafle du Veldiv, tuée la semaine dernière dans son appartement. 2 hommes sont mis en examen pour homicide volontaire à caractère antisémite. Et l'indignation, heureusement, va bien au-delà de la communauté juive. Communauté qui se sent parfois en danger en France face aux actes antisémites. C'est le cas de cette femme qu'a rencontré Thibault Lefèvre. Elle vit à quelques rues de là où habitait l'octogénaire et raconte les multiples agressions subies depuis 7 ans.
Les premières menaces commencent à l'arrivée d'Avigaël dans son nouvel appartement.
C'est là qu'elle a été arrachée. Vous voyez, encore la trace de l'autocollant.
Un petit rouleau de parchemin arraché du montant de la porte d'entrée. Dans la tradition religieuse, la mezouza désigne un foyer juif.
On est venu frapper des gros coups de pied à ma porte vers 2-3 heures du matin en nous insultant, en nous disant « Vous êtes des sales juifs, vous êtes des grosses salopes ». On va vous tuer.
Des menaces qui se précisent, et notamment quand Avigaël et ses deux filles organisent des fêtes religieuses. En mai dernier, un voisin entend des prières et des chants. Il attend les trois femmes à la sortie de l'immeuble, puis les agresse.
Le monsieur en question, l'individu donc algérien, il est descendu comme une furie. Il vient vers ma petite de 11 ans et lui dit « Toi, tu veux pas arrêter du bruit, il faut que je te tue. » Et il l'a frappé. Ça a dégénéré, les forces de l'ordre sont intervenues et j'ai été portée plainte. Il nous fait comprendre qu'il faut qu'on parte d'ici avant que ça dégénère. J'ai peur qu'il arrive un drame. Et depuis que je suis venue ici dans le 11e, je subis que des actes antisémites et des menaces de mort.
Avigaël et ses filles ont été agressées 7 fois en 7 ans. Elles ont déposé 3 plaintes sans suite pour le moment.
Reportage Thibault Lefèvre. Ce soir, de nombreuses personnalités politiques viendront défiler en hommage à Mireille Knoll, des ministres, la maire de Paris Anne Hidalgo, le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, celui du PS, Olivier Faure. C'est le CRIF qui a lancé l'invitation et il prévient, par la voix de son président Francis Khalifa, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon ne sont les bienvenus tout à l'heure.
Il est tout de même heureux que tout le monde demande un prompt châtiment lorsqu'on est face à un crime d'une telle ampleur. Mais néanmoins, est-ce que pour autant, moi, organisateur d'une manifestation, j'ai envie d'avoir à mes côtés, pour lutter contre l'antisémitisme, des gens qui, de leur côté à eux, ne luttent pas contre l'antisémitisme et parfois sont des vecteurs d'antisémitisme dans notre pays? Non, et ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon ne seront les bienvenus dans cette manifestation. Que les choses soient claires, tous les deux sont pour nous des vecteurs de haine dans notre pays, la haine que nous connaissons de l'extrême droite d'un côté, la haine d'Israël de l'autre côté, et qui est aussi la haine des juifs en réalité, de l'autre côté à l'extrême gauche.
Le président du CRIF interrogé sur BFM TV, on ne sait pas encore si le Front National et la France Insoumise respecteront cette consigne tout à l'heure.
Il est 8h10, vous avez demandé la police fiscale, ne quittez pas.
C'est la nouveauté du jour, des enquêteurs, ils sont 300 chargés de traquer les entreprises qui fraudent le fisc. La mesure fait partie d'un plan présenté ce matin au Conseil des ministres, on y trouve d'autres nouveautés, comme le fait de rendre publiques les sanctions contre les entreprises qu'on appelle le name and shame, ou encore des peines plus lourdes contre les intermédiaires, notamment les experts comptables qui facilitent la la fraude fiscale d'Edwin Simon.
Ces intermédiaires, avocats, notaires, experts comptables, tentaient de proposer à leurs clients des montages fiscaux frauduleux. Ils seront frappés plus durement, promet Bercy. Des pénalités administratives qui pourront aller de 10 000 euros à la moitié des honoraires perçus. Pour l'avocat fiscaliste Jean-Philippe Delsol, tout cela va créer une suspicion générale vu le nombre de zones grises en droit fiscal.
Si je conseille en tant qu'avocat fiscaliste à quelqu'un de créer une société de para-hôtellerie pour bénéficier d'une exonération, est-ce que je vais le conseiller dans la perspective d'une fraude fiscale ou est-ce que je vais le conseiller dans une optimisation normale et naturelle de son patrimoine et de sa gestion ? Je ne le sais pas. On est dans des zones grises.
Le texte rate sa cible, estime de son côté le président de l'Institut des avocats conseils, dans la mesure où ces montages frauduleux, ils sont vendus par des professions non réglementées. Il sera par ailleurs très difficile de caractériser certaines formes d'abus de droit, explique Marc Bornhauser.
Parfois, les États ont prévu des crédits d'impôt fictifs pour encourager l'investissement. Et donc, venir nous coller des sanctions pour avoir abusé, entre guillemets, d'une convention internationale, c'est faire peser sur nous une pression inacceptable.
À trop charger la barque, selon lui, le risque, c'est de pousser ses activités de conseil à haute valeur ajoutée vers des pays comme le Luxembourg ou la Belgique.
Un peu d'air avant d'affronter les cortèges de la semaine prochaine. La popularité du couple exécutif remonte légèrement dans le dernier baromètre d'Oxa pour France Inter, l'Express et la presse régionale. 2 points de gagné pour Emmanuel Macron et pour son Premier ministre Édouard Philippe. Ils sont tous les deux à 45% de popularité. Sondage mené avant l'attentat de vendredi dernier. Il y avait déjà celle du Mirail à Toulouse, puis la fac de Montpellier. C'est désormais l'université Paris-Tolbiac qui est occupée par des étudiants et fermée au moins jusqu'à demain. À Lille, 200 étudiants ont manifesté hier devant la fac de droit après des violences provoquées selon eux par des militants de l'ultra-droite. Et puis c'est le plus gros bouchon du moment, mais il n'est pas sur les routes. Plus de 400 000 demandes de carte grise sont toujours en attente de traitement, parfois depuis des mois, annonce ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Il y en avait déjà 100 000 en décembre. Visiblement, ça ne s'arrange pas. À l'origine de cet embouteillage géant, la fermeture des guichets qui délivraient ces cartes grises en préfecture, remplacée désormais par un site internet.
Finalement, c'était bien lui.
La télévision chinoise et les agences officielles ont fini par le reconnaître. C'est bien le dictateur nord-coréen Kim Jong-un qui était à Pékin depuis 3 jours pour un sommet secret avec le président chinois, accueilli en grande pompe, avec passage en revue des troupes et banquet dans le palais du peuple. La télé le montre vêtu d'un costume Mao aux côtés de son épouse. Pour ce qui était donc son premier voyage à l'étranger. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 7 ans, Kim Jong-un a confirmé qu'il rencontrera bien sa bête noire, Donald Trump, lors d'un sommet sans doute au mois de mai. Toujours à l'étranger, 3e et dernier jour de vote aujourd'hui en Égypte, où les électeurs sont appelés à choisir leur président, ou plutôt à reconduire l'actuel, le maréchal Al-Sissi, dans ce qui ressemble davantage à un plébiscite. Pas de candidat d'opposition face à lui et des témoignages de votes forcés qui se multiplient. Reportage dans le Delta du Nil, François Umferkataji.
Dans cette ville du delta du Nil, l'entrée du bureau de vote ressemble davantage à celle d'une caserne. La rue est bloquée, des soldats en armes, des policiers en uniforme ou en civil déambulent autour des quelques votants, tous conquis par le président Abdel Fattah el-Sissi, garant, disent-ils, de la sécurité du pays. Des baffles crachent des chansons qui appellent les citoyens à se rendre aux urnes. Et vers midi, un groupe d'adolescents habillés d'un t-shirt d'une coalition de partis pro-Sissi s'avance en rang devant le bureau de vote. Ils chantent en l'honneur des forces spéciales déployées dans le Sinaï et des martyrs tombés pour la patrie. C'est dans cette atmosphère qu'un homme s'approche de nous. C'est un professeur. Il explique comment sa hiérarchie l'a obligé à se rendre dans l'isoloir.
Ils m'ont dit qu'il y avait une liste du personnel du ministère de l'Éducation. Ils m'ont dit de signer parce que cette liste sera surveillée, que si je ne signais pas, je serais dans le collimateur. Pour les personnes qui y vont, il n'y a pas de problème, donc je devais y aller.
Le taux d'abstention est en effet le véritable enjeu de cette présidentielle où l'ex-maréchal Sissi a écarté tous ses concurrents. À Tanta, dans le delta du Nil, François Umferkataji, France Inter.
Il est 8h14, le score y était, Marc, la manière un peu moins.
Les Bleus sont venus à bout de la Russie hier soir, 3-1, grâce à un coup franc de Pogba et un doublé de Mbappé, son premier sous le maillot de l'équipe de France. Dernier match amical avant la publication de la liste des 23 qui iront au Mondial en Russie. Rencontre marquée également par de nouveaux dérapages racistes en tribune à Saint-Pétersbourg, des cris de singe lancés par une partie du public lorsque des joueurs français, Pogba et Dembélé notamment, ont touché le ballon hier. Son dernier film est sorti il y a moins de 3 mois, revoilà des déjà un nouveau Spielberg au cinéma. Il sort aujourd'hui son titre Ready Player One. Il nous emmène dans le futur. En 2045, les amateurs d'effets spéciaux et de science-fiction seront servis. Corinne Pellissier l'a vu pour nous.
Qui est ce Parzival et comment se fait-il qu'il soit en fait ?
Steven Spielberg l'a souvent montré dans ses films. Rien ne vaut à ses yeux l'esthétique des années 80. La musique ici de Van Halen et la voiture de Marty McFly de Retour vers le futur pour nous plonger dans un univers parallèle aux frontières de la réalité et du jeu vidéo. Nous sommes ici en 2045 à Columbus dans l'Ohio, un futur proche composé d'écrans géants et de cités poubelles où chacun, pour tromper l'ennui, se réfugie dans un monde virtuel baptisé l'Oasis.
Ils appellent notre génération les millions de portées disparues. Pas parce qu'on est parti quelque part, il n'y a nulle part où aller.
L'alpha et l'oméga du jeune Wade Watts, le héros du film, qui à l'aide d'un masque de réalité virtuelle, se retrouve à l'envi embarqué dans les aventures les plus folles, à grand renfort d'effets spéciaux. Car dans l'Oasis, chacun peut devenir qui il veut, faire ce qu'il veut, skier sur les pyramides en Égypte ou escalader l'Everest avec Batman, à condition toutefois que le principe de liberté continue d'exister. Et c'est là tout le sujet du film, le contrôle de la fameuse plateforme. Une intrigue simple mais efficace et un regard à la fois tendre et lucide sur nos sociétés connectées.
Voilà le dernier Steven Spielberg à découvrir donc au cinéma aujourd'hui, Nicolas.
Merci Marc Fauvel.